Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 18h38, on va prendre de la hauteur Thomas Soto avec Jean-Christophe Ruffin. Il est académicien, médecin, ancien ambassadeur et l'invité de RTL Soir.
Bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Bonsoir.
Et oui, on prend de la hauteur au sens propre, hein, puisque vous êtes à côté de Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc. C'est là-bas que vous vivez désormais la plupart du temps. Quand vous les regardez, ces montagnes, Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Elles me disent qu'elles vont pas bien, c'est-à-dire que la période en plus après la canicule a été catastrophique parce que la neige évidemment a complètement fondu et donc on voit la réalité de la montagne, c'est-à-dire des glaciers qui sont misérables hein, aujourd'hui et qui une montagne qui tombe, qui s'écroule, qu'elle soit du côté de la glace ou du rocher, on l'entend même hein, de chez moi, on l'entend tous les jours.
Mais ces changements, vous les voyez presque au jour le jour depuis presque 20 ans que vous vivez là-bas. Est-ce qu'elle a beaucoup changé votre montagne?
Ben oui, c'est ça qui est terrible, c'est quand on commence à avoir l'âge des glaciers, ça, il faut s'inquiéter un petit peu. Et en ce moment, les êtres humains sont finalement ont presque une mémoire plus grande que celle de la glace. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait ce qu'on appelle l'école de glace. Vous savez, quand on commence à faire de l'alpinisme au glacier des Bossons, on descendait de voiture, on faisait quelques mètres et puis on était sur le glacier. Aujourd'hui, il a reculé de presque un kilomètre. Si vous voulez, c'est une sorte de nos souvenirs sont aujourd'hui ont disparu. Voilà, il y a beaucoup de voix qui étaient des voix célèbres, par exemple, qui n'existent plus. Vous voyez, le pilier Bonatti, vous savez, Walter Bonatti, qui avait ouvert en 1955 un pilier au Dru, qui était un exploit pour l'époque. Eh bien, Walter Bonatti a vécu plus longtemps que son pilier. C'est quand même absolument étonnant.
Ça veut dire quoi, Jean-Christophe Ruffin ? Ça veut dire qu'on regarde l'Amazonie brûler, qu'on s'en inquiète, qu'on commence peut-être à réagir, mais qu'on devrait s'affoler et réagir de la même manière pour le Mont Blanc aujourd'hui ?
Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la plupart des images qu'on voit dans les médias sur le réchauffement climatique sont des images souvent lointaines, tropicales, ou un ours polaire qui dérive sur son glaçon, etc., vous voyez, ou l'Amazonie. En réalité, c'est très bien, ça provoque une sorte de prise de conscience, mais c'est une prise de conscience qui a un risque, qui comporte un risque. On peut dire, c'est loin, c'est pas chez nous. En réalité, avec le Mont Blanc et avec ses massifs montagneux, mais le Mont Blanc étant évidemment le plus emblématique, on se rend compte que personne n'est à l'abri, et certainement pas nous. Hein, le nuage de Tchernobyl s'est pas arrêté à la frontière, de même le réchauffement climatique n'épargne pas nos montagnes et nos campagnes.
D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit c'est foutu, on se dit c'est la fin du monde qui approche, en tout cas la fin de l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment ?
Non, il ne s'agit pas de dire que c'est foutu ni d'affoler le monde. Simplement, si vous voulez, en ce moment, on vit dans une période un peu schizophrénique parce que d'un côté, il y a une prise de conscience mondiale, il y a l'accord de Paris, il y a Greta Thunberg, etc. Enfin, toute cette espèce d'inquiétude mondiale qui progresse. Et puis de l'autre côté, vous avez dans la réalité de la vie internationale des pouvoirs, que ce soit celui de Trump aux États-Unis, de Bolsonaro, vous en avez parlé. Mais bien d'autres, hélas, qui eux, au contraire, sont des climato-sceptiques et surtout des nationalistes, c'est-à-dire qui ne veulent pas qu'on aille regarder ce qui se passe chez eux. Donc les Brésiliens vous disent, l'Amazonie, ça ne vous regarde pas, c'est chez nous. Bon, je pense qu'il faut que dans ce combat mondial, parce que c'est vraiment un combat mondial, il faut faire en sorte que la vision universaliste, la vision de l'intérêt général et du bien public l'emporte. Et ça, ce n'est pas gagné, mais c'est vrai que la France aujourd'hui est...
Oui. Vous avez employé le mot schizophrénie, on l'est tous un peu schizophrène. Regardez, Raoni, quand il vient aujourd'hui au G7, il vient évidemment en avion parce qu'il n'a pas le choix. Vous, vous avez signé une tribune dans Paris Match cette semaine, qui est très touchante, mais qui commence par ces mots « L'hélicoptère remonte lentement la gorge verdoyante ». L'hélicoptère. Et là, je pourrais dire, il abuse Ruffin, il veut sauver la planète en hélico. On en est tous là, en fait.
Non, mais l'hélicoptère en question, c'est l'hélicoptère ici qui approvisionne les refuges, mais aussi qui va déposer, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs juste après, était chercher les glaciéristes qui observent et qui sont les gens qui scrutent le Mont Blanc. Donc, si vous voulez, faut pas exagérer, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas.
Non, mais je vous mets pas en cause, mais comment on lutte contre nos propres contradictions au quotidien ? C'est ça la question.
Non, mais si vous voulez, oui, mais les hélicoptères de secours ici qui vont chercher les alpinistes et tout, c'est pas eux qui font le changement climatique. problématique. Là où, si vous voulez, il y a vraiment des, je pense, une sorte de révolution culturelle, c'est sur, en effet, globalement, notre rapport à l'énergie, si vous voulez, notre rapport à la... bon, ici, par exemple, la vallée de l'Arve est une des vallées les plus polluées de France. Bon, ça, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire, pourquoi ces camions, ces cordes de camions qui passent le tunnel du Mont-Blanc, pourquoi ça? C'est ça, le réchauffement climatique, c'est ça. C'est pas un petit hélicoptère qui se balade, c'est vraiment... Il faut voir ce que c'est en bas, là. De, alors, si vous voulez, ces choix sont des choix d'aménagement du territoire. Pourquoi, pourquoi le faire routage plutôt que le camion, etc. Vous voyez, c'est ces choix-là qui sont importants.
Et c'est là-dessus, pas, on a évidemment des marges de manœuvre. Quelques mots du G7, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez été ambassadeur, hein, vous connaissez donc parfaitement la langue de bois et son usage. Si on traduit ce qui s'est dit au G7 dans la vraie vie, dans la vraie langue, il en ressort quoi? Quel est pour vous le bilan de ce G7?
Bah, c'est pour l'instant rien, c'est-à-dire que c'est un G7 qui reflète l'état actuel de la planète, ce que je vous disais, c'est-à-dire aussi des grandes puissances, c'est-à-dire que les grandes puissances aujourd'hui, si vous prenez non pas le G7, mais le G5, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU,
vous avez les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine, qui sont tous, j'allais dire, dirigés par des pouvoirs qui sont des pouvoirs populistes ou des pouvoirs nationalistes ou des pouvoirs, en tout cas, qui ne on peut pas dire qu'ils s'illustrent par leur défense de l'environnement. Donc on est dans cette période-là, et la France est assez seule, mais elle tient un langage qui est nécessaire, parce que, si vous voulez, moi j'insiste là-dessus, ces pouvoirs nationalistes, ces pouvoirs climato-sceptiques, etc., ils ne seront pas éternels. Et les feux, par exemple, en Amazonie, ils peuvent faire une victime, et j'espère qu'il le fera, c'est Bolsonaro. C'est-à-dire que ces pouvoirs qui nient toute responsabilité écologique, à un moment donné, ils sont mis face quand même aux résultats de leur politique. Et je pense que là, il y a une marge de manœuvre. Vous voyez, Bolsonaro, moi j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, il n'est pas si stable que ça, il n'est pas si solide que ça. Et je pense qu'il faut le mettre face à ces contradictions, y compris sur le terrain écologique.
Vous étiez au consulat général de Recife. Vous ne voulez pas nous donner une petite raison de sourire pour finir quand même, Jean-Christophe Ruffin? Parce que là quand même...
Bah non, mais la raison de sourire, c'est que la montagne est belle. Là, je vous parle, je suis au pied du Mont Blanc, je le regarde, il est magnifique. J'ai fait de l'alpinisme hier et pas en hélicoptère, et j'en ferai demain. Et ça reste, si vous voulez, on a besoin des montagnes, on a besoin de l'environnement, on a besoin de cette nature sauvage. Et c'est pour ça qu'il faut la protéger. Mais elle est là, elle est encore là. Il y a encore des très beaux moments à vivre dans ces endroits. Donc, je veux dire, on la protège parce qu'elle est là. Je veux dire, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et c'est parce qu'elle est encore là qu'il faut prendre conscience de sa beauté et de sa valeur.
Ce que je vous propose, c'est de nous prendre une petite photo. Vous nous l'envoyez, puis on va la mettre sur le compte RTL avec le hashtag RTL Soir. OK, de cette belle photo
plaisir,
pour qu'on puisse en profiter. On met ça dans quelques minutes.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, d'avoir été en direct avec nous. Merci également à notre correspondant à Grenoble, Serge Puyot, qui était à vos côtés pour cette interview.
18h46, dans un instant, les auditeurs de RTL Soir vont découvrir un nouveau rendez-vous, Thomas Soto.
Et oui, voici qu'arrive une autre nouveauté dans RTL Soir, Virginie. Ils sont trois, ils se complètent, c'est la bande de C'est leur choix, sans Evelyne Thomas, mais avec Julia Molcou, avec Catherine Boulet et avec Christian Ménanteau. À tout de suite.
RTL Soir.